prit que définitivement il se portait comme candidat aux élections de la Seine. Dans une affiche adressée au peuple et où il le tutoyait, l'acteur se vantait de le comprendre, lui, et de s'être fait, pour son salut, crucifié par l'art, si bien qu'il était son incarnation, son idéal. Croyant effectivement avoir sur les masses une influence énorme, jusqu'à proposer plus tard dans un bureau de ministère de réduire une émeute à lui seul, et quant aux moyens qu'il emploierait, il fit cette réponse « N'ayez pas peur, je leur montrerai ma tête ». Frédéric, pour le mortifier, lui notifia sa propre candidature. Le cabotin, du moment que son futur collègue visait la province, se déclara son serviteur et offrit de le piloter dans les clubs. Ils les visitèrent tous, ou presque tous, les rouges et les bleus, les furibonds et les tranquilles, les puritains, les débraillés, les mystiques et les pochards, ceux où l'on décrétait la mort des rois, ceux où l'on dénonçait les fraudes de l'épicerie et partout, les locataires maudissaient les propriétaires, la blouse s'en prenait à l'habit, et les riches conspiraient contre les pauvres. Plusieurs voulaient des indemnités comme anciens martyrs de la police, d'autres imploraient de l'argent pour mettre en jeu des inventions, ou bien c'était des plans de phalanstère, des projets de bazars cantonaux, des systèmes de félicité publique, puis ça et là, un éclair d'esprit dans ces nuages de sottises, des apostrophes, soudaines comme des éclaboussures, le droit formulé par un juron et des fleurs d'éloquence aux lèvres d'un goujat, portant accru le baudrier d'un sabre sur sa poitrine sans chemise. Quelquefois aussi figurait un monsieur, aristocrate humble d'allure, disant des choses plébéiennes et qui ne s'était pas lavé les mains pour les faire paraître calleuses. Un patriote le reconnaissait, les plus vertueux le houspillaient et il sortait la rage dans l'âme. On devait, par affectation de bon sens, dénigrer toujours les avocats, et servir le plus souvent possible ses locutions à porter sa pierre à l'édifice, problème social, atelier. Delmar ne ratait pas les occasions d'empoigner la parole, et quand il ne trouvait plus rien à dire, sa ressource était de se camper, le poing sur la hanche, l'autre bras dans le gilet, en se tournant de profil brusquement, de manière à bien montrer sa tête. Alors, des applaudissements éclataient, ceux de Mademoiselle Batnaz, au fond de la salle. Frédéric, malgré la faiblesse des orateurs, n'osait se risquer. Tous ces gens lui semblaient trop incultes ou trop hostiles. Mais Dussardier se mit en recherche et lui annonça qu'il existait, rue Saint-Jacques, un club intitulé le Club de l'Intelligence. Un nom pareil donnait bon espoir. D'ailleurs, il amènerait des amis. Il amena ceux qu'il avait invités à son punch. Le teneur de livres, le placeur de vin, l'architecte. Pellerin même était venu. Peut-être Cussonnet allait venir, et sur le trottoir, devant la porte, stationnait Roginbard avec deux individus, dont le premier était son fidèle compain, homme un peu courtaud, marqué de petites véroles, les yeux rouges, et le second, une espèce de singe nègre, extrêmement chevelu, et qu'il connaissait seulement pour être un patriote de Barcelone. Ils passèrent par une allée, puis furent introduits dans une grande pièce, à usage de menuisier sans doute, et dont les murs encore neufs sentaient le plâtre. Quatre quinquets accrochés parallèlement y faisaient une lumière désagréable. Sur une estrade, au fond, il y avait un bureau avec une sonnette, en dessous une table figurant la tribune, et de chaque côté, deux autres plus basses pour les secrétaires. L'auditoire qui garnissait les bancs était composé de vieux rapins, de pions, d'hommes de lettres inédits. Sur ces lignes de paletots à collet gras, on voyait de place en place le bonnet d'une femme ou le bourgeron d'un ouvrier. Le fond de la salle était même plein d'ouvriers, venus là sans doute par désœuvrement, ou qu'avaient introduit des orateurs pour se faire applaudir. Frédéric eut soin de se mettre entre Dussardier et Roginbard, qui, à peine assis, posa ses deux mains sur sa canne, son menton sur ses deux mains, et ferma les paupières, tandis qu'à l'autre extrémité de la salle, Delmar, debout, dominait l'assemblée. Au bureau du président, Sénécal parut. Cette surprise, avait pensé le bon commis, plairait à Frédéric. Elle le contraria. La foule témoignait à son président une grande déférence. Il était de ceux qui, le 25 février, avaient voulu l'organisation immédiate du travail. Le lendemain, au Prado, il s'était prononcé pour qu'on attaquât l'hôtel de ville. Et comme chaque personnage se réglait alors sur un modèle, l'un copiant Saint-Just, l'autre Danton, l'autre Marat, lui, il tâchait de ressembler à Blanqui, lequel imitait Robespierre. Ses gants noirs et ses cheveux en brosse lui donnaient un aspect rigide, extrêmement convenable. Il ouvrit la séance par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, acte de foi habituel, puis une voix vigoureuse entonna les souvenirs du peuple de Béranger. D'autres voix s'élevèrent. « Non, non, pas ça !»« La casquette !» se mirent à hurler, au fond, les patriotes. Et ils chantèrent, en chœur, la poésie du jour. « Chapeau bas devant ma casquette, à genoux devant l'ouvrier !» Sur un mot du président, l'auditoire se tut. Un des secrétaires procéda au dépouillement des lettres. Des jeunes gens annoncent qu'ils brûlent chaque soir devant le Panthéon un numéro de l'Assemblée nationale. Ils engagent tous les patriotes à suivre leur exemple. « Bravo, adopté !» répondit la foule. Le citoyen Jean-Jacques Langreneux, typographe, rue Dauphine, voudrait qu'on élevât un monument à la mémoire des martyrs de Thermidor. Michel Évariste Népomucène Vincent, ex-professeur, émet le vœu que la démocratie européenne adopte l'unité de langage. On pourrait se servir d'une langue morte, comme par exemple du latin perfectionné. « Non, pas de latin !» s'écria l'architecte. « Pourquoi ?» reprit un maître d'études. Et ces deux messieurs engagèrent une discussion où d'autres se mêlèrent, chacun jetant son mot pour éblouir et qui ne tarda pas à devenir tellement fastidieuse que beaucoup s'en allaient. Mais un petit vieillard, portant au bas de son front prodigieusement haut des lunettes vertes, réclama la parole pour une communication urgente. C'était un mémoire sur la répartition des impôts. Les chiffres découlaient, cela n'en finissait plus. L'impatience éclatait d'abord en murmures, en conversation. Rien ne le troublait. Puis on se mit à siffler. On appelait Azor. Sénécal gourmanda le public. L'orateur continuait comme une machine. Il fallut, pour l'arrêter, le prendre par le coude. Le bonhomme eut l'air de sortir d'un songe et levant tranquillement ses lunettes. « Pardon, citoyen, pardon, je me retire, mille excuses !» L'insuccès de cette lecture déconcerta Frédéric. Il avait son discours dans sa poche, mais une improvisation eut mieux valu. Enfin, le président annonça qu'ils allaient passer à l'affaire importante, la question électorale. On ne discuterait pas les grandes listes républicaines. Cependant, le club de l'intelligence avait bien le droit, comme un autre, d'en former une, n'en déplaise à messieurs les pachas de l'hôtel de ville. Et les citoyens qui briguaient le mandat populaire pouvaient exposer leur titre. « Allez-y donc !» dit Dussardier. Un homme en soutane, crépus et de physionomie pétulante, avait déjà levé la main. Il déclara, en bredouillant, s'appeler Ducreteau, prêtre et agronome, auteur d'un ouvrage intitulé « Des engrais ». On le renvoya vers un cercle horticole. Puis, un patriote en blouse gravit